en tout cas, toujours ravi de vous retrouver, Michel. Et là, vous allez donc commencer votre chronique, la numéro 128, là, je le rappelle. Hein. Et vous allez commencer, bien sûr, par l'actualité et notamment des nouveaux acteurs pour l'émission spatiale habitée.
Oui, alors je dois reconnaître que je parle très régulièrement ici de la société privée SpaceX d'Elon Musk, qui a révolutionné le domaine aérospatial avec ses lanceurs réutilisables. Et je relate notamment les essais successifs de son vaisseau Starship, environ tous les deux mois. Hein, il y a eu 5 tirs en 2025, en janvier, mars, mai, août et octobre. Cela me semble légitime puisque c'est ce vaisseau qui était choisi par la NASA dans le cadre de son programme lunaire Artemis pour assurer le transport des astronautes aller-retour entre une station spatiale en orbite autour de la Lune, la Lunar Gateway, et la surface de notre satellite. La mise au point du Starship est donc un élément clé du retour d'astronautes américains sur la Lune, plus de 50 ans après les missions Apollo des années 1970. D'ailleurs, je peux signaler qu'après l'assez bonne réussite de son dernier lancement, le 11e essai, qui doit être le premier d'une nouvelle version, la version 3, qu'on attendait plus ou moins pour la fin d'année, se présente mal pour le moment. En effet, vendredi dernier, lors du test au sol consistant à remplir les réservoirs de son booster Super Heavy, c'est-à-dire son premier étage, pour vérifier sa résistance au froid intense des fluides, je rappelle qu'il y a de l'oxygène liquide à moins 180 degrés, la structure a cédé, provoquant une fuite massive de l'oxygène liquide qu'il contenait. Encore un problème qui va retarder le programme de qualification du Starship pour la mission Artemis 3, théoriquement prévue en 2027, mais dont la plupart des observateurs doutent que cette échéance puisse être respectée. Mais à côté de SpaceX et de l'agence gouvernementale NASA, avec son SLS, le Space Launch System, il y a d'autres acteurs privés qui essaient de percer dans le secteur très exigeant des missions spatiales habitées, c'est-à-dire transportant un équipage d'astronautes, que ce soit en orbite terrestre, par exemple pour les allers-retours vers la station spatiale ISS, ou plus loin vers la Lune, ou peut-être un jour Mars. La plus connue est sans conteste Blue Origin de Jeff Bezos, le patron d'Amazon, dont le module lunaire Blue Moon a été choisi en 2023 par la NASA pour succéder au Starship pour la mission Artemis 5. Assez similaire au module lunaire LEM des missions Apollo, il devrait être testé sans équipage dès janvier 2026, lors d'un essai baptisé Pathfinder, c'est-à-dire l'éclaireur en français, qui devrait démontrer le bon fonctionnement de ces systèmes pour obtenir une très grande précision d'un alunissage à environ 100 mètres maximum de sa cible. Il est clair qu'avec cette annonce et les tests réussis de son lanceur lourd New Glenn, en janvier dernier, il atteignait l'orbite terrestre dès son premier essai, et le 13 novembre, en propulsant vers Mars la mission Escapade de la NASA, une sonde d'environ une tonne, Blue Origin essaie de démontrer à l'agence américaine qu'elle pourrait supplanter SpaceX si le Starship continue à prendre du retard. D'ailleurs, juste après le choix fait par la NASA pour les premières missions lunaires Artemis 3 et 4 en 2021, un contrat de presque 3 milliards de dollars, Jeff Bezos avait contesté cette sélection auprès du GAO, l'équivalent américain de notre Cour des comptes, mais sans succès. Et à part ces sociétés très médiatisées, il y en a d'autres dont on parle moins.
Et vous voulez évoquer certainement, Michel, une société implantée en région bordelaise.
Effectivement, il s'agit de la société européenne The Exploration Company, ou TEC en abrégé, dirigée par sa fondatrice française, Hélène Huby, et dont le siège social est situé à Munich, mais qui est aussi implantée dans notre région, au départ à Mérignac. J'avais déjà évoqué cette compagnie en juin dernier, à l'occasion du premier essai d'un prototype à échelle réduite de sa capsule Nix, propulsée par un lanceur Falcon 9 de SpaceX depuis la base de Vandenberg en Californie. Test plutôt réussi, puisque la capsule avait survécu à sa rentrée atmosphérique avec son bouclier thermique, mais malheureusement, le contact avait été perdu quelques minutes avant son atterrissage dans l'océan Pacifique, laissant supposer une défaillance de ses parachutes. La semaine dernière, le 20 novembre, elle inaugurait sa nouvelle implantation située au Hayan, juste en face d'Ariane Group, toujours dans la zone aéroportuaire de Mérignac. De nouveaux locaux comprenant 5000 m² d'ateliers et 2500 m² de bureaux pour un coût d'environ 10 millions d'euros. À cette occasion, Hélène Huby a évoqué la montée en puissance de la société devant un certain nombre d'autorités politiques, dont Benjamin Haddad, ministre délégué chargé de l'Europe, Bruno Bonnel, secrétaire général à l'investissement du programme France 2030, et bien entendu Alain Rousset, président de la région Nouvelle-Aquitaine. Lauréate en 2023, avec trois autres sociétés, d'un appel à projet de l'ESA, l'Agence spatiale européenne, pour le développement de véhicules spatiaux répondant aux différents besoins de l'agence, et comprenant aujourd'hui environ 400 collaborateurs, TEC a déjà collecté 220 millions d'euros de financement et signé pour 800 millions d'euros de contrats. À l'issue de la cérémonie, Hélène Huby a répondu aux questions de nos confrères de Ciel et Espace, et c'est de cet entretien, que nos auditeurs peuvent retrouver intégralement sur le site de la revue, que j'ai tiré les éléments suivants. TEC a choisi de s'implanter dans la région bordelaise pour des raisons précises. Comme sa capsule réutilisable doit revenir intacte sur Terre, il était logique de venir dans cette région d'industrie aéronautique qui est la seule en Europe à posséder des compétences dans le domaine de la rentrée atmosphérique, notamment avec la mise au point du missile balistique stratégique français M51. Le nouveau site devra assurer la fabrication des tuiles de protection thermique de Nyx, mais aussi des moteurs pour la capsule, pour son futur atterrisseur lunaire, ainsi que pour son lanceur, le moteur Typhoon, qui devra avoir une poussée de 200 tonnes, comparable au Raptor de SpaceX. Mais cette implantation sera aussi le centre de contrôle d'où seront supervisés les vols de ces vaisseaux. À terme, le site devrait employer entre 350 et 400 personnes, alors qu'actuellement, TEC ne compte que 150 collaborateurs en France.
Alors Michel, quels sont les principaux projets de cette société TEC ?
Alors en premier lieu, il s'agit de la capsule spatiale réutilisable Nyx. Hein, le nom est une référence à la déesse grecque de la nuit. Assez semblable au Dragon de SpaceX, avec ses 4 mètres de diamètre et 8 tonnes, qui doit être capable d'emporter 4 tonnes de fret en orbite basse, par exemple pour le ravitaillement d'une station spatiale comme l'ISS, ou bien sûr transporter un équipage. Comme elle est conçue pour être compatible avec plusieurs lanceurs lourds, comme Ariane 6, elle pourrait avoir comme client aussi bien l'ESA, l'Agence spatiale européenne, pour laquelle elle représente la possibilité d'une souveraineté spatiale. Je rappelle que le transport des spationautes européens par SpaceX représente un budget de l'ordre de 1,5 milliard d'euros par an, mais aussi la NASA ou de futures sociétés privées qui déploieraient leur propre station spatiale en orbite terrestre. Il existe plusieurs projets de ce type. À l'horizon d'une dizaine d'années, Hélène Huby estime que l'Europe sera capable de réaliser des vols spatiaux habités en toute autonomie, avec Nyx, propulsé par Ariane, et à plus long terme, peut-être 20 ans, des missions lunaires. TEC ayant déjà dans ses cartons, comme on peut le voir sur son site web, le projet Nyx 6 Lunar, d'une mission en orbite lunaire, comme Artemis 2 de la NASA prévu en principe l'an prochain, et Nyx Moon, un futur atterrisseur lunaire, développé en partenariat avec les Émirats Arabes Unis. À court terme, la société prévoit un premier vol de qualification de sa capsule dès l'an prochain et une première mission de ravitaillement de l'ISS en 2028.
Alors toujours dans le cadre de l'actualité, des astronautes chinois. Astronautes chinois bloqués dans leur station spatiale.
Alors nos éditeurs se souviennent peut-être de la mésaventure arrivée aux deux astronautes américains, Barry Wilmore et Sunita Williams, qui avaient rejoint l'ISS, la station spatiale internationale, lors d'un vol de qualification de la capsule Starliner de Boeing le 5 juin 2024 et devait en principe rester une petite semaine à bord, mais que les dysfonctionnements de la capsule, jugés trop risqués pour les ramener sur Terre, avaient obligé à rester 9 mois à bord de la station avant de pouvoir revenir avec une capsule Crew Dragon. Au passage, je signale qu'on vient d'apprendre qu'un nouveau test de la Starliner, mais cette fois sans astronaute, est prévu en avril 2026. Eh bien, c'est un accident du même genre qui vient de perturber la mission de trois taïkonautes chinois, je ne garantis pas la prononciation du chinois, Zhang Lu, Wu Fei et Zhang Hongzhang, qui ont rejoint la station spatiale Tiangong le 31 octobre dernier, à bord du vaisseau Shenzhou 21. En effet, les trois taïkonautes qu'ils venaient relever étaient censés revenir sur Terre le 5 novembre avec le vaisseau qui les avait amenés en avril, Shenzhou 20. Le problème, c'est que l'agence spatiale a constaté que cette capsule avait été victime de l'impact d'un débris spatial sur un de ses hublots, ce qui rendait risqué une rentrée atmosphérique avec la forte montée en température due au frottement sur l'air à haute vitesse. C'est dans les 28 000 km/h au début de la chute. Il a donc été décidé qu'il était plus sûr que l'équipage précédent revienne avec la capsule Shenzhou 21, ce qui a été fait le 14 novembre. Laissant la nouvelle équipe à bord de la station sans moyen de revenir sur Terre, sauf à utiliser le Shenzhou 20 endommagé en cas d'extrême urgence. Heureusement, le planning de la CMSA, c'est l'Agence spatiale chinoise pour les vols habités, avait envisagé ce genre d'imprévu en anticipant l'assemblage de ses vaisseaux et le Shenzhou 22 qui devait rejoindre Tiangong seulement en avril 2026 était déjà presque prêt à rejoindre la station, ce qu'il a réussi hier matin. Au final, les trois taïkonautes n'auront été dans une situation périlleuse qu'une dizaine de jours, beaucoup moins que leurs collègues américains.
Alors après ce petit détour par la Chine, quelles sont les nouvelles de l'aérospatial européen ?
Alors elles sont bonnes, même si pour le moment, et probablement encore pour de nombreuses années, il n'est pas question de missions habitées purement européennes, mais du lancement de satellites et de sondes spatiales. Et justement, le 4 novembre, comme je l'avais annoncé dans ma précédente chronique de fin octobre, Ariane 6 a mis en orbite le satellite Sentinel-1D, développé par l'ESA dans le cadre de son programme Copernicus d'observation de la Terre. Arrivé à destination sur une orbite héliosynchrone, c'est-à-dire synchronisée avec l'éclairage de la Terre par le Soleil, à 693 km d'altitude, il a déployé ses panneaux solaires et commencé ses observations, qui consistent principalement à prendre des images de la surface de la Terre, notamment avec un radar à haute résolution. Elles sont ensuite exploitées dans différents domaines, comme l'environnement, la climatologie, l'hydrologie, les transports, avec par exemple l'étude des banquises et glaciers, des forêts et zones agricoles, des mouvements du sol et les vagues, les pollutions maritimes, les trafics illégaux, etc. Je profite d'ailleurs de l'évocation de cette mission ayant des aspects écologiques et climatiques pour repousser un petit coup de gueule à l'encontre de Donald Trump, complètement à l'opposé puisqu'il a supprimé tous les programmes de ce type dans le projet de budget 2026 de la NASA, actuellement examiné par le Congrès américain. En effet, le président Orange a encore fait des siennes en confirmant la nomination de Jared Isaacman comme nouvel administrateur de la NASA le 4 novembre, candidat qu'il avait déjà choisi en décembre 2024, avant de le révoquer 6 mois plus tard, à la fin de sa lune de miel avec Elon Musk, qui avait soutenu la candidature de ce milliardaire à la tête de l'agence spatiale. Mais on est habitué au revirement incessant du Donald, hein, celui de la présidence, pas de Disney, dans tous les domaines, avec des conséquences bien plus dramatiques que pour la conquête spatiale, et je pense bien sûr à la guerre en Ukraine et à Gaza. Cette nomination est un coup porté à la NASA car Jared Isaacman est un fervent partisan de la privatisation du domaine spatial, ayant lui-même son propre programme spatial privé, financé par sa fortune réalisée dans le domaine des paiements en ligne, notamment des vols habités privés à bord de capsules Crew Dragon de son ami Elon Musk, comme Inspiration 4 en 2021, un séjour en orbite de 3 jours pour 4 astronautes civils dont lui-même, et Polaris Dawn en 2024, cette fois avec 5 astronautes dont lui-même. Je ne sais pas si Isaacman est un climato-sceptique comme Trump, ne connaissant pas ses prises de position sur le réchauffement climatique, mais il est clair que comme Musk, il est partisan de la conquête spatiale de prestige, avec pour objectif Mars, et presque comme une étape intermédiaire, le retour sur la Lune, pour lesquels il ne fait aucun doute qu'il privilégiera son compère Elon Musk, alors que l'administrateur provisoire de la NASA, Sean Duffy, secrétaire au transport des États-Unis, qui a assuré l'intérim depuis juillet, était sur le point de remettre en cause l'accord qui lie SpaceX et la NASA, vu les déboires du Starship. Dans tous les cas, dans un contexte budgétaire en baisse drastique avec un recul prévu de 20% en 2026, le plus bas depuis 1961, ce sont les missions scientifiques qui en paieront les frais, avec une baisse de près de 50% de leurs moyens, en sacrifiant les missions d'observation de la Terre, qui sont directement dans le collimateur du climato-négationniste Trump, mais aussi des missions majeures, comme Mars Sample Return, de retour sur Terre des échantillons de sol martien collectés par Perseverance, ou le télescope spatial Nancy Grace Roman, ayant nécessité 10 ans de développement et plus de 4 milliards de dollars, qui était en cours de préparation pour être lancé en 2027. Comme la Planetary Society, gravement préoccupée, hein, je la cite, à l'annonce de ce projet de budget présenté en avril par Jared Isaacman, on peut craindre qu'avec cet administrateur, la NASA n'entre dans un âge sombre pour l'essence spatiale, et c'est encore une citation de la Planetary Society.
Et pour être un petit peu plus positif, quelques découvertes récentes en astronomie.
Alors je commencerai par une nouvelle réjouissante concernant le projet de télescope géant, ILT, Extremely Large Telescope, de l'ESO, l'European Southern Observatory, Observatoire européen de l'hémisphère sud, dont le monstrueux miroir de presque 40 mètres de diamètre devrait voir ses premières étoiles en 2029, car heureusement l'Europe, elle, poursuit le financement de ses grands projets scientifiques. Début novembre a été publiée une vidéo du chantier de construction au Chili, que nos auditeurs peuvent facilement trouver sur la chaîne YouTube de l'ESO ou sur le site de Ciel Espace. On y voit pour la première fois manœuvrer une porte géante de la coupole encore en cours d'assemblage. Chacune de ces deux portes pèse dans les 650 tonnes, soit plus qu'un Airbus A380 en charge maximum. Il suffit de voir la taille des camions et des grues alentour pour se rendre compte de l'échelle de cet énorme télescope. Avec son miroir captant 20 fois plus de lumière que chacun des VLT actuels, l'ILT devrait révolutionner nos connaissances en astrophysique. Le 12 novembre dernier, un article publié dans la prestigieuse revue Nature rapportait les observations réalisées par une équipe dirigée par Philippe Zarca de l'Observatoire de Paris avec les radiotélescopes LOFAR, ce qui veut dire Low Frequency Array, situés dans 7 pays européens, 38 antennes aux Pays-Bas, 6 en Allemagne, 3 en Pologne et 1 en France, en Grande-Bretagne, en Suède, en Lettonie et en Irlande. Je rappelle à nos auditeurs qu'avec la technique de l'interférométrie, en combinant les signaux de télescopes distants, on peut obtenir un résultat équivalent à l'utilisation d'un télescope aussi grand que la distance séparant les deux télescopes les plus éloignés l'un de l'autre. C'est ainsi que l'Observatoire de Paris a pu réaliser une grande première en détectant autour d'une petite étoile, une naine rouge située à 133 années-lumière de nous dans la direction de la constellation du Dragon, une éjection de masse coronale, comme ils sont produits sur notre Soleil, et qui peuvent produire des aurores polaires quand les particules atteignent l'atmosphère terrestre. Par le passé, les astronomes avaient déjà observé des augmentations de luminosité d'étoiles qui pouvaient être interprétées comme des éjections. Mais c'est la première fois qu'on le prouve en détectant directement un sursaut radio correspondant au choc à grande vitesse des particules éjectées contre la couronne de l'étoile, c'est-à-dire grosso modo son atmosphère. Bien entendu, ces études visent à mieux connaître le fonctionnement des étoiles et leur évolution, donc aussi pour notre Soleil.
Alors pour conclure, pour finir sur cette partie actu, une découverte plus proche de nous.
Alors c'est effectivement dans notre système solaire que des astronomes observent la formation d'anneaux autour du petit corps glacé Chiron. Bien sûr, tout le monde connaît les impressionnants anneaux de la planète géante Saturne, qui d'ailleurs disparaissent à notre vue en ce moment, comme je le dirai dans la partie ciel du mois. Mais un peu moins ceux des autres planètes gazeuses, car beaucoup plus discrets et inobservables depuis la Terre. Mais on en a découvert aussi autour de planètes naines, comme Haumea et Kaoar, qui orbitent plus loin que Neptune, ou l'astéroïde Chariclo, de seulement 250 km, le premier petit corps où on a découvert un système d'anneaux en 2014, ce qui a conduit les astronomes à penser qu'il pouvait en exister autour d'autres centaures, c'est-à-dire la famille d'astéroïdes qui orbitent de manière synchrone avec Jupiter. Nos auditeurs peuvent se demander comment on peut détecter des anneaux autour de petits corps si éloignés de nous qu'ils n'apparaissent que comme des points, même dans les plus grands télescopes. La réponse est simple, lors des occultations. En effet, l'étude de ces petits corps, notamment en ce qui concerne leur dimension, leur forme et leur trajectoire, consiste une fois que leur orbite est à peu près connue, à prévoir leur passage devant une étoile qu'ils vont faire disparaître pendant un temps très court, souvent de l'ordre de la seconde. Si au lieu d'une simple éclipse brutale de l'étoile, on détecte d'autres anomalies, cela peut révéler l'existence d'une atmosphère, si la baisse puis remontée de luminosité est progressive et non pas bien nette, ou la présence d'anneaux s'il y a une sorte de bref rebond avant et après l'occultation principale. La nouveauté avec Chiron, un astéroïde de 200 km qui orbite à une distance analogue à celle d'Uranus, c'est que son système d'anneaux est en train de se former et continue à évoluer. C'est ce qu'a mis en évidence Christian Luciano Pereira, astronome de l'Observatoire du Brésil, qui mobilise une cinquantaine d'observateurs situés au Brésil, en Argentine et au Chili. Car pour observer une occultation, il faut être correctement placé sur Terre pour que l'ombre de l'astéroïde devant l'étoile passe sur vous. Dès celles de 1993-14 et 2011, il y avait des doutes, mais on pouvait attribuer les variations d'éclat à des jeux de matière, un peu comme pour les comètes. Cela restait intriguant car cela se produisait quand Chiron était très éloigné du Soleil, alors que ce genre d'activité cométaire se signale habituellement à proximité de notre étoile, quand le petit corps est le plus chauffé. Mais les occultations de 2018 et 2022 ont prouvé qu'il s'agissait bien d'un système d'anneaux. Puis en 2023, ce qui a permis de détecter 3 anneaux et peut-être un 4e qui reste à confirmer. Mais ces différentes observations ont montré que la structure du système d'anneaux évoluait de l'une à l'autre. Donc probablement qu'ils étaient en train de se former. La question est maintenant d'expliquer comment des anneaux peuvent se former autour de corps si petits. Il y a 3 hypothèses, soit de la matière éjectée lors d'une collision avec un autre objet, ou un petit satellite qui se serait disloqué par l'effet des forces de marée, ou l'éjection par l'effet d'une activité de type cométaire, et c'est le scénario privilégié par Christian Luciano Pereira, qui poursuit ses observations pour voir comment le système évolue, en espérant le voir se stabiliser pour que Chiron conserve ses anneaux peut-être pour des millions d'années. Et une petite info de dernière minute, dans un article publié hier sur le site de Ciel et Espace, on signale qu'en comparant des images de l'orbiteur lunaire Hélero prises à 3 ans d'intervalle, on a découvert un nouveau cratère de 22 mètres formé par un impact d'astéroïdes qui a dû se produire entre décembre 2009 et 2012.
Allez, on est toujours en direct sur Odo Radio. Voilà, c'est la chronique Astro présentée et réalisée par Michel Favret. Et là, Michel, vous allez aborder la deuxième partie, bien le sujet, le thème du mois, avec les planètes errantes.
Alors, j'ai eu l'idée d'évoquer ce sujet que je connaissais très peu il y a encore 15 jours, hein, je dois avouer, car j'ai pu assister à une conférence le samedi 15 novembre à Socat, organisée par nos amis d'AG33, Astronomie Gironde 33, comme ils le font tous les ans en automne. L'intervenant était Hervé Bouy du LAB, le laboratoire d'astrophysique de Bordeaux, qui étudie ces objets insolites. Il a commencé par rappeler que cette expression de planète errante était controversée dans le milieu des chercheurs, car selon la définition canonique d'une planète, par exemple si on prend celle du dictionnaire, c'est un corps céleste non lumineux gravitant autour d'une étoile, du Soleil, pardon, à laquelle on ajoute parfois, j'anticipais, ou d'autres étoiles, afin d'inclure aussi les exoplanètes ou planètes extrasolaires qui ne font pas partie de notre système solaire. Mais dans tous les cas, cela ne devrait pas s'appliquer aux planètes errantes, ou nomades, ou orphelines, ou rebelles, selon les sources, car ces objets n'orbitent pas autour d'étoiles. Pour contourner la difficulté, certains les nomment « objets isolés de masse planétaire », mais on peut convenir que c'est une expression bien longue et moins évocatrice que les précédentes.
Alors comment sait-on qu'il y a des planètes qui errent dans l'espace sans orbiter autour d'une étoile ?
Alors quitte à être un peu caricatural, je dirais que c'est une découverte collatérale d'études qui portaient paradoxalement sur les étoiles. En effet, pour mieux comprendre la formation de notre système solaire et de ses planètes, les astronomes étudient des pouponnières d'étoiles, c'est-à-dire des zones où de grands nuages de gaz et de poussière sont actuellement en train de former de nouvelles étoiles, comme par exemple la fameuse nébuleuse d'Orion, qu'on pourra bientôt admirer de nouveau dans le ciel d'hiver. Pour bien caractériser ces bébés étoiles, qui n'ont souvent que quelques millions d'années, à comparer aux 4,5 milliards de notre Soleil, ils en réalisent des spectres, c'est-à-dire qu'ils décomposent la lumière qu'elles nous envoient, ce qui permet d'en connaître la température, mais surtout la composition, à travers des raies d'absorption, c'est-à-dire des raies sombres dans le spectre lumineux, qui sont un peu comme des codes-barres permettant d'identifier les gaz présents autour de l'étoile que leur lumière a traversé avant de nous parvenir. Or, il se trouve que les spectres de certains objets étudiés ne correspondaient pas à ceux des étoiles, mais évoquaient plutôt des planètes, car ils révélaient des molécules, par exemple de l'eau, H2O, du monoxyde de carbone, CO, ou même du méthane, CH4, composés qui peuvent se trouver dans l'atmosphère de planètes gazeuses comme Jupiter, mais assez peu autour d'étoiles, car c'est un environnement bien trop chaud. C'est notamment le cas au début des années 2010, par exemple en novembre 2012, avec des observations de l'Observatoire Canada-France-Hawaï et du VLT. Comme ces observations se font dans l'infrarouge, le JWST, James Webb Space Telescope, qui fonctionne dans cette partie du spectre, est particulièrement adapté et a permis d'en détecter quelques centaines depuis le début des années 2020. Selon les statistiques établies à partir de la population connue, il y aurait plus de planètes errantes que d'étoiles dans notre galaxie, la Voie lactée, donc des centaines de milliards. Voilà le principe de la recherche de ces planètes solitaires. Comme nous le rappelait la définition d'une planète, il s'agit de corps célestes non lumineux. C'est-à-dire que contrairement aux étoiles qui accumulent une masse de gaz assez grande pour atteindre en leur cœur une pression et une température suffisantes pour que démarrent des réactions de fusion nucléaire qui vont lui permettre de produire leur propre lumière, donc de briller dans le cosmos, Les planètes sont trop petites pour évoluer ainsi et ne produisent pas de lumière comme les étoiles. Mais lors de leur formation, divers mécanismes, à commencer par la compression du gaz qui les compose, certains mécanismes les réchauffent, mais beaucoup moins que les étoiles. Donc elles émettent de la lumière dans l'infrarouge, comme tous les corps ayant une température relativement basse. Le problème, c'est que comme elles ne produisent pas de chaleur par action nucléaire, elles vont se refroidir progressivement, et donc émettre de moins en moins d'infrarouge et dans des longueurs d'onde de plus en plus longues. C'est pourquoi les astronomes les recherchent dans des régions de formation d'étoiles, car ils ont un maximum de chances d'y trouver des planètes errantes jeunes, encore assez lumineuses en infrarouge pour être observées. Il faut savoir qu'avec la sensibilité des instruments actuels, on ne peut détecter que de très grosses planètes, au moins de 5 fois la taille de Jupiter. Je rappelle à nos auditeurs que Jupiter, la plus grosse planète de notre système solaire, est une géante gazeuse 1000 fois plus grande que la Terre en volume et 300 fois plus massive. Parmi les objets infrarouges détectés, les chercheurs filtrent ceux dont le déplacement est cohérent avec celui du groupe d'étoiles jeunes qui les environne, car il semble que tous les objets créés au sein d'un même nuage de gaz et de poussière se déplacent de concert dans la même direction, vestige du déplacement du nuage lors de leur formation. Là encore, c'est une véritable prouesse technique et qui demande beaucoup de patience, avec des observations espacées de plusieurs mois, car typiquement, le déplacement d'une planète errante en un an est équivalent à la taille d'une pièce de 1 euro en France, vue depuis New York. Et une fois les candidates repérées, il faut en obtenir des spectres pour vérifier qu'il s'agit bien de planètes au travers des molécules qu'ils révèlent.
Mais comment des planètes peuvent-elles exister dans l'espace sans être attachées à une étoile ?
Eh bien, il existe deux hypothèses. Dans le premier cas, il pourrait s'agir de planètes qui se sont formées avec d'autres autour d'une étoile, mais qui auraient été éjectées de leur système planétaire avant d'errer seules dans l'espace. Dans le deuxième cas, elles pourraient s'être formées seules, sans appartenir à un système planétaire. L'hypothèse de l'éjection, bien que très spectaculaire et violente, ne doit pas nous surprendre, car le modèle actuel d'évolution de notre système solaire après sa formation, qu'on appelle le modèle de Nice, car élaboré par simulation à l'Observatoire de la Côte d'Azur, notamment par l'astronome italien Alessandro Morbidelli, met en évidence des instabilités d'orbite des planètes ayant conduit à des migrations des planètes géantes qui ont bousculé, si je peux dire, la ceinture d'astéroïdes au point de provoquer un bombardement intense des planètes intérieures, ce qu'on appelle le grand bombardement tardif, qui expliquerait les très nombreux cratères qui grêlent les surfaces de nombreux objets comme la Lune ou Mercure. Cette évolution chaotique aurait même inversé la position des planètes Uranus et Neptune. Il en faudrait à peine plus pour imaginer qu'une planète aurait pu aussi être éjectée définitivement. Hypothèse possible, mais invérifiable concernant notre système solaire. Mais l'éjection de corps par des systèmes planétaires est bien confirmée, puisque nous avons déjà détecté 3 objets interstellaires traversant notre système solaire. Un I, Oumuamua, en 2017, le I veut justement dire interstellaire, 2I Borisov en 2019, et cette année, 3I Atlas, qu'on peut encore admirer dans un télescope d'amateur en ce moment, mais c'est vers 5h du matin. À noter qu'à côté de l'éjection d'une planète due aux instabilités intrinsèques de son système planétaire, il peut y avoir un autre cas de figure, où c'est le passage trop proche d'une autre étoile qui peut perturber les planètes et conduire à une éjection. La deuxième hypothèse, la formation isolée d'une planète, part d'une idée très simple. Quand un nuage de gaz et de poussière s'effondre en différents points, où la densité est légèrement plus forte pour constituer des sortes de cocons où vont naître des étoiles, pourquoi ne pourraient-ils pas apparaître des objets de toute taille, donc aussi bien des planètes que des étoiles ?
Alors les astronomes peuvent-ils savoir quelle est la bonne hypothèse entre ces deux possibilités ?
En fait, les chercheurs essaient par des études statistiques de faire la part des choses. Hervé Bouy nous l'a expliqué à partir du concept de fonction de masse. Si on compte les étoiles d'une population en les rangeant par groupe de taille, les moyennes ayant une masse un peu comme le Soleil, les étoiles plus massives qui sont moins nombreuses, etc., on s'aperçoit que les étoiles les plus nombreuses sont les étoiles de faible masse. D'ailleurs, c'est l'occasion de remarquer que le ciel nous trompe. Quand on lève les yeux vers la voûte étoilée, les étoiles brillantes que nous apercevons sont pour la plupart comme le Soleil, émettant de la lumière visible captée par nos yeux, assez souvent plus grosse que notre Soleil pour être aussi lumineuse malgré la distance qui nous sépare, voire beaucoup plus grosse comme certaines géantes rouges, Par exemple, Bételgeuse d'Orion, Aldébaran du Taureau ou Antarès du Scorpion. Mais c'est une vision totalement biaisée par la faiblesse de notre vision. Car les étoiles les plus nombreuses dans l'espace autour de nous sont plus petites, donc trop peu lumineuses pour nos yeux, et pour beaucoup émettent de la lumière infrarouge totalement invisible pour nous. Mais revenons à la fonction de masse. Le classement statistique de la population d'étoiles moins massive que le Soleil montre une progression régulière, avec une pente décroissante constante. Donc on peut s'attendre à ce que les planètes naines, errantes, encore plus petites, se retrouvent plus ou moins dans le prolongement de cette tendance. Or, les populations de planètes naines étudiées jusqu'à présent dépassent cette statistique. Il faudra encore le confirmer avec des populations plus importantes, mais pour le moment, tout semble indiquer qu'à côté de planètes qui se sont formées seules de manière isolée, il y a bien aussi une proportion de planètes qui ont été éjectées du système planétaire dans lequel elles sont nées.
Alors, peut-on imaginer à quoi ressemblent ces planètes et seraient-elles habitables ?
Comme je l'ai dit, pour le moment, on ne peut détecter que des très grosses planètes, au moins 5 fois notre Jupiter. Donc, on imagine qu'elles ressemblent à nos géantes gazeuses, sans doute encore plus froides, puisque très éloignées de toute étoile qui pourrait les réchauffer, bien que des mécanismes internes, comme la compression et la radioactivité, puissent produire une certaine chaleur. Pour être habitable, au sens astronomique qu'on donne à ce terme pour les exoplanètes, c'est-à-dire susceptibles de présenter de l'eau liquide à leur surface, ces basses températures sont un gros problème. Mais on pourrait imaginer qu'avec une atmosphère qui joue un rôle de couverture, lui évitant de voir fuir sa chaleur interne vers l'espace, une telle planète errante pourrait être relativement tempérée, au point de disposer d'eau liquide à sa surface, ou plus probablement sous une épaisse couche de glace, comme certains des satellites de nos géantes gazeuses, par exemple Europe ou Encelade. Quant à vouloir coloniser une telle planète, ce qui est impossible, vu les distances énormes qui nous séparent, je ne crois pas que ce serait une entreprise souhaitable. Qui aurait envie d'errer indéfiniment dans l'espace avec un ciel constellé d'étoiles distantes, mais aucun soleil pour se réchauffer ou s'éclairer? On peut craindre que cette situation ne soit source d'une grande déprime infinie.
Allez, on est toujours en direct sur Eau de Radio. C'est la chronique Astro numéro 128, présentée et réalisée par Michel Favré. Et là, Michel, donc vous allez aborder la troisième partie avec le ciel du mois.
Alors, comme chaque fois, je renvoie nos auditeurs vers la rubrique ciel du mois de la section astronomie de notre site web. On l'a dit tout à l'heure, www.constellationsetgalaxies.org, pour voir les cartes du ciel. Difficile de montrer les cartes à la radio et avoir plus de détails. Je la mettrai à jour pour décembre, je pense d'ici lundi. Comme on approche du solstice d'hiver du 21 décembre, jour le plus court de l'année, l'observation du ciel nocturne peut se pratiquer très tôt le soir, car en ce moment le soleil se couche vers 17h15, la nuit arrive vers 18h30 et le ciel bien noir dès 19h. Ce sera analogue fin décembre puisqu'on aura dépassé le solstice et les jours auront recommencé à s'allonger un peu. Comme nous sommes vers la fin d'automne, ce sont les constellations de la saison qui peuplent majoritairement le ciel au sud en début de nuit. Mais avec la nuit qui commence très tôt, celles de l'été font de la résistance, si je peux dire, en persistant encore un bon moment vers l'ouest avant de se coucher. C'est le cas notamment avec le triangle de l'été, trois étoiles très brillantes qui dessinent cette grande figure géométrique, pointe en bas, Deneb, la plus haute, pratiquement au zénith, c'est-à-dire au-dessus de notre tête, Vega, la plus à l'ouest, et Altaïr, la plus basse, permettant de situer leurs constellations respectives du cygne, de la lyre et de l'aigle. Si le ciel est assez noir, on pourra distinguer le long du cygne et de l'aigle le ruban laiteux de la voie lactée, pratiquement dressé à la verticale. Au sud, on repère facilement la constellation vedette du ciel d'automne, Pégase, bien reconnaissable à son grand carré, et dans le prolongement de sa diagonale, Andromède, puis les autres constellations qui nous racontent la légende d'Andromède et de Persée, dont j'ai parlé la dernière fois. Sous Pégase, le monstre marin, devenu la baleine, et plus au nord, le héros Persée, puis Cassiopée, son mari Céphée, parent d'Andromède. Je rappelle que selon le mythe, Pégase est né du mélange du sang de la méduse et de l'eau de mer, et comme il est représenté dans le ciel à sa naissance, on a sous lui des constellations qui évoquent l'eau, et notamment les poissons, qui dessinent comme un grand V entre Pégase et la baleine. Et un peu plus à l'est, une autre constellation du zodiaque avec le Bélier, qui précède le taureau en train de se lever plein est, mais là on commence à aborder les constellations de l'hiver. Fin décembre, tout le ciel se sera largement décalé vers l'ouest, avec en début de nuit le triangle de l'été sur le point de se coucher, Pégase ayant déjà franchi le méridien sud, et à l'est, les constellations d'hiver se levant, notamment la figure centrale d'Orion, bien reconnaissable à sa silhouette humaine, qui nous revient toujours à l'époque de Noël, ce qui vaut aux trois étoiles dessinant sa ceinture le surnom de roi mage. Côté planète, seule Saturne est visible dans le ciel du soir. Dans les télescopes, elle se présente de manière inhabituelle, puisque ses anneaux sont presque invisibles en ce moment, car vus sur la tranche en ce mois de novembre. Cela ne se produit que tous les 13 à 16 ans. La prochaine fois, ce sera en 2038. Jupiter ne se lève que vers 21h, 18h30 fin décembre, mais il faut patienter au moins une heure ou deux pour qu'il soit observable dans de meilleures conditions. Je rappelle à nos auditeurs que dans une simple paire de jumelles, on peut voir ses quatre principaux satellites, dont les positions changent en quelques dizaines de minutes. Vénus a presque disparu du ciel de matin et ne nous reviendra le soir qu'en février. Mercure atteignant son élongation ouest maximum, c'est-à-dire son plus grand écart au Soleil, le 8 décembre, il peut être observé dans les lueurs de l'aube pendant toute la première quinzaine. Mars, lui, n'est pas observable car trop proche du Soleil dans le ciel. Comme chaque mois, la Lune produira une série de conjonctions en s'approchant des planètes, en commençant par ce samedi 29 novembre, où la Lune à peine gibbeuse, c'est le lendemain du premier quartier, sera très proche de Saturne, les deux astres étant séparés d'environ la largeur de deux doigts bras tendus. Une semaine plus tard, le dimanche 7 décembre, on pourra voir vers 20h la Lune gibbeuse se lever avec Jupiter, avec environ le même écart. Il faudra ensuite patienter jusqu'au vendredi 26 pour voir un gros croissant de lune, presque un premier quartier, accompagner Saturne pendant une grande partie de la nuit, avant de se coucher ensemble vers minuit. Enfin, un rapprochement qui n'est pas strictement une conjonction, car elle ne concerne pas une planète, mais des étoiles. Mercredi prochain, le 3 décembre, la lune quasi pleine sera assez proche de l'amas des Pléiades dès le début de nuit, et s'en rapprochera heure après heure, au point de commencer à leur passer devant à partir de 4h du matin environ, ce qu'on appelle une occultation. Les Pléiades sont un groupe très serré d'étoiles brillantes, faciles à repérer dans le taureau. Selon son acuité visuelle, on peut en distinguer généralement entre 5 et 9. Elles sont surnommées les 7 sœurs depuis la Grèce antique, où on les avait identifiées aux filles d'Atlas. Enfin, pour ceux qui aiment les étoiles filantes, on parle souvent des Perséides en été, il faut savoir qu'il y en a d'autres toute l'année, et en particulier en décembre, les Géminides, qui sont presque aussi nombreuses que les Perséides de l'été, et dont le maximum est le 14 décembre. Donc dans cette nuit, en plus, il n'y aura pas beaucoup de lune, ce serait l'occasion peut-être de voir beaucoup d'étoiles filantes. Le 14, c'est le maximum, mais quelques jours avant ou quelques jours après, il y en aura sûrement aussi pas mal. Sauf imprévu, notre prochaine chronique devrait avoir lieu le mercredi 7 janvier. C'est pourquoi je souhaite, avec presque un mois d'avance, de joyeuses fêtes de fin d'année à tous nos auditeurs. Comme chaque début d'année, on fera un petit calendrier des événements astronomiques, avec en point d'orgue pour 2026 la très belle éclipse de soleil du 12 août, à 97% dans notre région, mais totale en Espagne, un spectacle extraordinaire qui mériterait quelques heures de route pour rejoindre la bande de totalité, par exemple dans la région de Burgos.
Voilà, merci Michel pour la présentation de cette 128e chronique astro. Comment on se revoit du coup que l'an prochain? Un dernier mot, Michel?
Non, le ciel d'hiver, malheureusement, je suis originaire de Franche-Comté, donc je viens d'une région plus froide, mais qui a un climat très différent, qui est plus continental, moins humide que près de l'Atlantique. Et souvent, malheureusement, dans notre région, maintenant, on voit pas souvent un beau ciel en hiver, parce qu'il y a beaucoup de nuages, voire de la pluie. Mais il faut savoir, pour ceux que ça intéresse, que le ciel d'hiver est souvent plus beau que le ciel d'été. Alors bien sûr, ce ne sont pas les mêmes constellations, les mêmes étoiles, etc. Tout simplement parce que l'atmosphère est plus froide, elle est plus stable, donc on perçoit mieux les étoiles qui scintillent moins, qui sont plus jolies dans le ciel, si je peux dire.
Allez, merci beaucoup Michel. On se retrouve le 7 janvier.